Bonjour, jeudi 7 juillet, aime l'été qui s'invite parmi vous pour la prochaine heure. Les joies de l'été, c'est ce que nous voulons partager avec vous. L'été qui brille de mille feux par de belles escapades, des événements de toutes sortes, des spectacles hauts en couleur, que ce soit dans les parcs ou dans les rues, aime l'été, simplement aussi pour le plaisir d'être ensemble. Pour la prochaine heure, suivez-nous. Et dans notre choix de sujet et d'activité aujourd'hui, un événement très couru pour les amateurs de comic books et de culture populaire, de séries ou de films cultes, le Comic-Con de Montréal. Aussi, on vous parle de la programmation du pôle culturel du monastère des Ursulines à Québec. L'événement Complètement Cirque est un des grands événements de l'heure. Et dans un instant, le festival de jazz qui se poursuit jusqu'à samedi, on s'entretient avec une grande dame du jazz, Lorraine Desmarais. Bienvenue à Aime l'été! C'est le son de l'été, de ces chaudes soirées. Et oui, composition de Lorraine Desmarais en hommage à Bill Evans, Lorraine Desmarais que l'on adore, cette pianiste de jazz de chez nous, qui est une grande interprète et pianiste de jazz qui nous offre aussi ses compositions. Elle sera demain soir au Festival de jazz de Montréal avec un spectacle qui va célébrer ses 40 ans de carrière et on a la chance de la voir à l'autre bout du fil. Bonjour Lorraine!
Oui, bonjour.
Ah, comment allez-vous? Enfin, on a eu la chance de se rencontrer il y a quand même quelques temps. C'était à la fête de la musique à Tremblant.
Ah oui, oui, oui. Ouais, ah, mais vous oui, souvenez. On y retourne d'ailleurs cette année.
Ah, c'est merveilleux. On y sera certainement. Alors, on a l'habitude aussi de vous voir, de vous entendre au Festival de jazz de Montréal. Mais là, 40 ans de carrière, ah, ben je dis toujours, ça nous rajeunit pas, mais quand même, ça veut dire qu'on a eu tout un parcours, Lorraine.
Oui, tout à fait. Ça nous rajeunit pas, certains, mais en fait, j'ai pas vu les années passées. J'ai toujours produit, j'ai toujours tourné, fait des albums. Ça s'est enchaîné facilement, puis d'une façon comme on voit pas le temps passer. Puis là, je vois ça, je dis, mon Dieu, 40 ans,
pas facile.
On va fêter ça.
Pas facile de faire le bilan de toutes ces années, bien entendu, mais c'est justement, on a l'impression que vous vous êtes imposé tout naturellement dans le paysage jazz de Montréal et partout ailleurs aussi.
Oui, c'est un privilège parce que j'ai toujours aimé cette musique. Quand j'ai entendu Chick Corea et Oscar Peterson, ça a été une révélation pour moi. Alors, j'étais décidée, c'est ce que je voulais faire. J'avais quand même des études en piano classique que j'adorais aussi. Mais quand j'ai entendu ces interprètes, improvisateurs, compositeurs, je me suis dit, c'est ce que je veux faire.
C'est ça. C'était vos mentors, en effet. Et puis, oui, parce que vous aviez quand même étudié, comme vous le dites, en classique, mais vraiment, vous avez par la suite pris le virage piano-jazz et tout. Et puis, vous avez eu la chance quand même de rencontrer vos idoles, notamment Chick Corea. Vous avez pu jouer avec lui.
Ah, ça, c'est un moment, un beau moment, assez mémorable, évidemment, qu'on se retrouve à deux pianos avec son mentor, son idole. Ça a été vraiment une belle rencontre. Alors, c'est un peu ce que je vais commenter demain au concert. Tous les moments sont inoubliables, sont vraiment distincts, mais il y a des moments forts dans des carrières comme ça.
C'est
et
ça.
Puis, je veux le partager avec les gens.
Oui, parce qu'effectivement, ça avait été toute une soirée. Heureusement, je pense qu'il y a un enregistrement qui a été conservé de ce moment mémorable. Et puis, fort heureusement, vous vous en êtes très bien sortis. Apparemment, ben là, on remonte à 2004.
Ah oui?
Mais bon, évidemment, mais vous aviez déjà beaucoup d'expérience derrière vous. Et puis, bon, vous avez quand même parcouru le monde, les États-Unis, l'Europe, la Chine, le Mexique, l'Afrique et tout, même en Asie. Donc, c'est sûr que ça vous a amené à aussi rencontrer, sans doute, à faire d'autres rencontres également.
Oui, ça m'a amené à rencontrer des gens extraordinaires un peu partout, des pianistes, des musiciens, puis ça m'a permis de voir que le jazz voyage et le jazz, c'est sur toute la planète.
C'est ça. Alors, ça voyage bien, en tout cas.
Ça voyage bien. Oui, oui, ça voyage bien. Et puis, c'est intéressant aussi de faire des... Il y a eu des jam sessions. Ça, c'est une pratique qui se fait beaucoup dans le jazz. Alors, on rencontre beaucoup d'autres musiciens, puis c'est un bon test pour soi-même aussi, comment on peut, sur le moment, interpréter des pièces. Et puis, même, on est surpris parce que le fait de rencontrer d'autres musiciens, bien, c'est toujours un dialogue ou une communication. Fait que ça nous amène à jouer des choses. Je dis, ah, mon Dieu, j'ai joué ça, j'aurais jamais pensé.
C'est fou, hein? C'est ça, le jazz, au fond. Alors, c'est cette communication aussi qu'on a, non seulement avec le public, mais avec les autres musiciens. Et puis, bon, j'aime pas dire que vous avez été une pionnière, mais évidemment, on ne peut pas finalement occulter le fait que vous étiez une des premières femmes à percer dans le domaine du jazz.
Oui, effectivement, au début des années 80, quand j'ai justement découvert Chick Corea, Oscar Peterson, quand j'ai entendu ça, c'était pas... moi, je le faisais pour la musique. Je le fais toujours pour la musique, c'est certain. Mais je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. Je pense que j'étais la première ici au Québec. Là,
c'est ça. Il y avait bien Karen Young à l'époque.
Oui,
mais
Karen
bon,
Young, que j'ai eu quelques collaborations avec elle, qui a collaboré avec Michel Donato aussi. Non, je regarde toutes ces années, puis que de belles rencontres. Et puis, mais effectivement, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Il n'y en a pas encore beaucoup, mais il y en a davantage. J'ai beaucoup d'étudiantes.
Oui, c'est ça. Vous en formez parce que vous enseignez au Cégep
Saint-Laurent
toujours.
Ça.
Hein? Ça fait longtemps d'ailleurs que vous êtes là. Et puis, vous avez contribué à former Marianne Trudel, notamment.
Oui.
Et la petite dernière, là, Ariane Racicot, qui a joué justement au premier jour du festival de jazz en première partie de Wynton Marsalis, quand même.
Oui. Ben oui, quand même, tout à fait. Il y a eu Amy Rioux-Roussel aussi. C'est mes filles. Mes filles spirituelles. C'est comme je lisais, je crois que c'est dans... J'ai été tellement honorée avec des beaux articles dans Le Devoir, dans la presse. Mais c'est ce qu'on disait, c'est avec ses filles. J'ai trouvé ça sympathique.
Eh oui, tout à fait. Ben, c'est ça. D'ailleurs, tout cela ensemble, jouer, partir en tournée, composer, c'est pour vous une vocation. D'ailleurs, bon, votre travail de compositrice s'ajoute aussi à votre rayonnement parce que vous enregistrez principalement vos compositions. Au fond.
Oui, j'ai 12 albums, en majorité des compositions. Alors, je vais avoir une centaine de thèmes. Et puis, j'ai un nouvel album qui est en préparation, qui va sortir dans l'année 22 ou 23. Alors, C'est un long fleuve...
Qui n'est pas tranquille.
Qui n'est pas tranquille, voilà, c'est ça, oui. Ouais.
Mais c'est la musique qui vous donne toute cette énergie, Lorraine?
Oui, effectivement. Effectivement, quand je me mets au piano, que ce soit pour répéter des pièces ou pour composer, c'est comme un autre monde, c'est quelque chose, ça fait partie de moi. D'ailleurs, j'ai commencé toute jeune le piano. C'était un piano jouet qui m'avait été donné.
Oh,
et
tiens.
Puis, je pense que je devais avoir 3 ou 4 ans. Puis déjà, à ce moment-là, je savais, je disais, je veux jouer ça, c'est ça, j'aime la musique, puis je cherchais des sons. Alors, c'est une longue histoire qui se perpétue depuis longtemps, depuis ma toute jeunesse. J'avais la conviction que j'allais faire ça. À 12 ans, j'avais des compositions sur des cassettes. Je sais même pas si les gens savent encore c'est quoi des cassettes. J'ai encore j'ai des compositions. J'avais 11, 12 ans. J'ai tout conservé ça. Puis c'était mon idée dans la vie. Je voulais vraiment faire ça.
Ah, ben en tout cas, c'est tout à fait réussi. Évidemment, vous avez eu de nombreuses distinctions. Ça aussi, on ne peut pas le passer sous silence. Vous avez reçu l'Ordre du Canada en 2013. Alors, on vous félicite encore parce que c'était une distinction fort méritée. Et vous avez également eu un doctorat honorifique de l'UQAM. Plein de prix, hein, que ce soit au festival de jazz comme tel. Le prix, c'est ça, Oscar Peterson notamment. Oui. Le prix Opus aussi. Au Conseil québécois de la musique. Alors, vraiment, vous avez été honoré un peu partout. Alors, c'est vraiment... Donc là, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, bon, plus en détail, ce que vous allez présenter demain? Vous ne serez pas seul?
Non, je ne serai pas seul. C'est assez top secret, mais je pourrais dire d'ores et déjà, mon Big Band va être présent.
C'est ça, parce que vous avez toujours avec vous votre Big Band.
Oui, ça, c'est mon autre facette, ma priorité.
Ben, c'est-à-dire, vous jouez en trio plus souvent.
Oui, c'est ça.
Mais...
trio, mais j'ai mon Big Band.
Exact.
Fait que c'est ça, c'est une autre facette de moi. Alors, il va avoir ça, mais il va avoir des invités top secret. J'ose dire que ce sont des invités de marque. Alors,
à
ne pas manquer, les gens qui vont être là vont découvrir de très belles choses.
Évidemment, vous avez joué avec tous les musiciens, bon, ici au Québec. Il y a Michel Donato, juste pour faire une petite parenthèse. Là, on souligne quand même, c'est son 80e anniversaire de naissance, je pense, le 9 juillet au festival.
Oui, oui.
Alors, c'est ça, c'est vraiment... Vous êtes des gens qui faites de la musique très, très longtemps, hein, les artistes de jazz tout particulièrement. Et puis, ben, en fait, je trouvais ça charmant parce que vous disiez que l'organisation du festival vous ont toujours tout accordé. Alors, quand c'était le temps de demander à un orchestre symphonique, allons-y, un projet à 4 pianos aussi. Alors, vraiment, on ne vous a rien refusé, notamment, ben, on pense à ce moment avec Chick Corea, là, qui aussi a été parmi les grands moments.
Comme je disais, c'est une longue histoire d'amour avec le jazz parce que ma première prestation remonte à 1983. J'avais joué en trio dans un sympathique café qui s'appelait Grand Café à ce moment-là. Mm-hmm. Et puis, j'ai été de pratiquement toutes les éditions du Festival de jazz avec toutes sortes de formations. J'ai même pu jouer en duo avec Joanne Brackeen, qui est une femme pianiste jazz aussi formidable, qui était aussi une de mes idoles. Ils n'ont jamais rien refusé.
C'est ça, c'est merveilleux, en tout cas, de toute façon. Alors, ça explique que vous êtes une grande dame du jazz, en effet. Et bien, vous serez demain soir, je le rappelle, au Festival de jazz pour célébrer vos 40 ans de carrière. Et c'est une carrière qui a passé, comme vous le disiez, très rapidement. Et puis, ça va se poursuivre. On adore vos compositions aussi. Alors, c'est merveilleux.
Merci,
Lorraine Desmarais, d'être venue nous en parler de ce spectacle, de votre belle carrière.
Un très grand plaisir. Et puis, si je suis là aussi, c'est en grande partie, c'est à cause du public aussi qui me suit puis qui est là, parce que sans public, on n'y est pas.
En tout cas, vous nous honorez de toute façon et puis on sera toujours au rendez-vous. Merci, Lorraine.
Merci, au revoir.
Au plaisir. Allegria, musique du Cirque du Soleil, composée par René Dupéré, pièce tirée du spectacle du même nom, mise en scène par Franco Dragon. Allegria, toujours présentée à travers le monde. Hein. Le spectacle est présenté en ce moment jusqu'au 17 juillet à Portland. Et en ce moment, c'est Cousa qui est installé sous le chapiteau dans le Vieux-Port de Montréal jusqu'au 14 août. Eh bien, Montréal qui est complètement cirque, hein, cet autre événement qui nous revient chaque année. On en parle à l'instant avec Nadine Marchand, directrice de Montréal complètement cirque. Bonjour.
Bonjour.
Bon, des spectacles inédits, uniques, complètement cirque, hein, qui voient grand cette année. Alors, effectivement, oui. C'est le coup d'envoi. Ça a été, d'ailleurs, il y a eu quand même des événements hier soir.
Oui, hier soir, c'est la première à l'ATU, la première du spectacle après la nuit qui inaugurait le festival dans la grande salle de l'ATU, un spectacle absolument unique parce qu'il exploite toute la grandeur de cette salle-là. Le public est assis en cercle avec un panne musicale au milieu et des numéros aériens qui survolent. Et c'est vraiment, on est dans un rêve merveilleux, un rêve
éveillé. Tout à fait. Ah oui, mais c'est assez spectaculaire. Là, en fait, on se sert vraiment du lieu de la Tohu parce que souvent, les spectacles, ce sont des spectacles en tournée, enfin de tournée qui sont présentés là. Donc, on ne met pas nécessairement en valeur toutes les possibilités même de la Tohu.
Exactement. Tandis que là, le spectacle a été conçu pour la salle.
C'est ça.
Elle est exploitée totalement et c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment extraordinaire. Il y a des numéros d'une force, d'une puissance et qui on a l'impression qui nous survolent.
C'est ça, des acrobates qui volent.
Et la musique est absolument formidable.
Et la musique là, qui nous élève aussi parce que la musique est très importante. Très belle musique pour ce spectacle. Alors bref, bon, écoutez, c'est sûr qu'on a toute une expertise ici, les compagnies québécoises qui se sont multipliées à travers les années, la richesse, la pertinence aussi de leurs créations qui se sont imposées partout. Même les compagnies étrangères se bousculent pour venir chez nous. Donc, nos créations qui envahissent les rues, les toits, les balcons, enfin, qui transforment l'espace urbain. Comment ça se fait qu'on est si complètement cirque à Montréal?
Je ne sais pas, on pose souvent la question, je ne sais pas, on a eu une piqûre. On a eu un grand frère qui a le Cirque du Soleil.
C'est
et
sûr,
puis après, il y a eu la piqûre et je pense qu'on a un don, probablement, de dépassement de soi, d'une grande volonté, d'audace. Ça prend vraiment une volonté d'aller plus loin avec un goût de l'aventure et puis un talent pour le faire. Alors, c'est merveilleux. C'est cette ville, une force qui est reconnue partout à l'étranger. Puis je pense que cette année, en arrivant avec nos trois géants
qui est le clou
festival. Vraiment, ça nous fait grandir encore plus. Et ça prouve aussi, je pense, la force du génie québécois parce que ces trois géants-là, ces trois colosses personnages de 52 pieds de haut, ils ont été imaginés, dessinés, conçus, créés, fabriqués par des artisans québécois, des artistes. Et je leur lève mon chapeau parce que c'est un grand défi. Parce qu'il fallait construire ça et que ce soit des arches acrobatiques qui puissent accueillir les créations de grandes compagnies de cirque. Alors, c'est encore une fois la preuve du talent indéniable qu'on a ici à Montréal puis au Québec.
C'est ça. Donc, c'est vraiment ça. C'est sur l'esplanade à la place Ville-Marie. Alors, justement...
Mais il y a trois sites. Il y en a un à la place Émilie-Gamelin, à la place Ville-Marie et un au parc Vinet près du marché à Toitant. Et il y a trois compagnies, les Sept Doigts de la Main qui sont à la place Ville-Marie, Éloise à Gamelin et Machine de cirque à l'autre. C'est unique. C'est la première fois que tous les soirs à 6h, pas à 21h30, en même temps, on a trois spectacles de cirque en même temps gratuits pour le public, les touristes et tous ceux qui veulent vivre cette expérience avec nous.
Alors vraiment, ça c'est vraiment à découvrir, donc cette nouveauté, ces fameux trois géants à voir. Maintenant, il y a également, c'est sûr qu'il y a eu la Cité des arts du cirque qui ont donné toute cette impulsion. Évidemment, ça a donné lieu à plein de compagnies, mais là, parlez-nous de votre programmation comme telle. C'est ça, de l'autre volet finalement.
Oui, c'est ça, des spectacles, vous voulez dire des spectacles payants. Parce qu'il y a deux pôles. Il y a le pôle de l'ATU, puis le pôle du centre-ville, principalement du quartier des spectacles. Donc, à l'ATU, on a parlé du spectacle après la nuit qui ouvrait hier. Mais il y a d'autres spectacles dans des chapiteaux à l'extérieur, partout sur le site qui est devenu une destination, l'ATU.
C'est vraiment au cœur, d'ailleurs, de la Cité des arts du cirque.
Oui, tout à fait. Donc, ça fait vivre davantage, ça concrétise idée de la Cité des arts du cirque. Alors, on a un spectacle, Barca, qui est un cabaret dans un chapiteau, cabaret avec le groupe Gypsy Cumbia, donc musique, cirque, danse, complètement festif, fait pour faire la fête. On a des spectacles aussi qui viennent, on a un focus de pays nordiques, alors qui viennent de Suède, de Norvège, de Finlande, des spectacles plus contemporains, magnifiques pour toute la famille. Il y en a un pour les enfants qui s'appelle Piste, 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 mais des spectacles vraiment très jolis, très raffinés et qui nous amènent dans des univers complètement différents. On a aussi un spectacle qui vient de Guadeloupe avec des pays caribéens. Alors ça, c'est de la danse, c'est que des femmes et de la danse et du cirque, mais beaucoup de musique et de danse, c'est aussi vraiment très audacieux, très beau. Alors, partout sur le site, donc on peut se promener, voir un spectacle, aller manger à notre bahut, pique-niquer, il y a des bulles pique-nique, et puis voir un autre spectacle après. On peut passer facilement une journée, un après-midi, une soirée.
Ah oui, donc c'est ça, c'est à la Tohu, vous parlez toujours de la Tohu. Alors, vraiment, parce que c'est un lieu très particulier, centre de diffusion, de création, d'expérimentation, et puis vraiment, il y a une convergence entre culture, environnement et engagement communautaire. Alors vraiment, là, c'est vrai que c'est un endroit à fréquenter en tout temps, de toute façon.
Oui, oui, que ça a vraiment une personnalité propre, très forte. Ouais. Et puis vraiment, on est un peu en pleine nature parce qu'à côté, il y a le parc Frédéric Bach. C'est vraiment, vraiment très, très bien. Puis après ça, ben, on a l'inverse, on est dans le pôle plus urbain. Mm-hmm, donc, au quartier latin, la rue Saint-Denis qui se transforme en chapiteau de cirque à ciel ouvert. Donc, de la rue Sherbrooke à la rue Saint-Denis. Il y a plusieurs pistes avec, donc il y en a une immense table avec des performances vraiment qui sont conçues pour cette table-là. Il y a un ciel de trapèze, une arche acrobatique, et vraiment donc des pistes différentes qui accueillent des spectacles complètement complémentaires et diversifiés. Alors on va des spectacles plus de clowns ou de aérien dans la structure. Il y a vraiment de tout. Il y a des choses très audacieuses, très nouvelles, réjouissantes. C'est réjouissant pour le public. Et on a un nouvel espace qui s'appelle le Cirquisé, qui est sur la rue Saint-Denis, entre Sainte-Catherine, près à la place Pasteur, devant le clocher de Lucarne. Un magnifique lieu, un décor tout en rouge avec, c'est un endroit où on peut prendre un verre. Il y a un band live, toute la soirée, des performances de cirque qui nous surprennent. On peut être assis sur un beanbag, un adirondack, une chaise, et il y a des performances qui apparaissent dans les arbres, un numéro de personne, un numéro de tissu. Il y a une immense barre rond rouge avec un catwalk où là aussi, les acrobates vont nous surprendre. Vraiment un nouveau lieu, un lieu de vie, un lieu de rencontre où on peut traîner, on peut passer une partie de la soirée et on ne s'ennuiera pas.
Certainement pas. D'ailleurs, je vous ai laissé un peu filer parce que il y a tellement de choses à dire, alors je ne voulais pas trop vous interrompre. Il y a aussi un marché, pour les professionnels un peu en marge. Alors ça aussi, c'est quand même intéressant parce que ça amène des gens de partout dans le monde.
Ah oui. Oui, je suis très contente que vous m'en parliez parce que c'est un marché très important qui est devenu aussi, pendant la pandémie, on l'a transformé en marché virtuel, le premier marché de cirque virtuel qui a un énorme succès. Il y a des groupes qui travaillent toute l'année et là, dans le moment, ils sont là, ils viennent nous voir. On a donc 200 personnes qui sont inscrites, qui viennent de 18 pays, de 6 continents et qui se retrouvent pendant 4 jours à parler de cirque avec des conférences, des ateliers, des dîners de rencontres et beaucoup de présentations aussi. Donc, il y a plein de compagnies, même des compagnies qui viennent d'Afrique, qui viennent faire des présentations, des extraits de leur spectacle. Ah. Et puis, c'est là qu'ils peuvent rencontrer des diffuseurs, bâtir une tournée. C'est vraiment formidable. C'est vraiment
parfait.
Notre marché grandit d'année en année.
Merci bien d'être venu nous en parler. Et puis, effectivement, Montréal complètement en cirque. Le cirque qui est partout, je pense même au Cirque Éloise, qui est aux îles de la Madeleine, un spectacle conçu spécialement pour les Madelinos, pour les îles de la Madeleine. Alors, voyez, ça rayonne partout. Alors, merci bien. Et puis, on va suivre ça. Montréal complètement en cirque. Au revoir.
Merci beaucoup,
bonne journée.
Merci.
Eh bien, de retour après la pause avec le Comic-Con. Et oui, alors soyez des nôtres à Canal M. Aime l'été.
Vous écoutez Aime l'été.
years ago this story starts. There were four sorcerers with strong and wise hearts. But Gryffindor from Wildmoor, Fair Ravenclaw from Glen, sweet Hufflepuff from Valley Broad, shoot Slytherin from Fen. They had a dream to teach all that they knew. Witches and wizards came far, and it grew till the castle stood tall by the shores of a lake. And a thousand years later, the magic remains. Old Hogwarts swords in hand sing me a song. Speak in my head, tell me where I belong. And when things look bad and there's nowhere to run, unite all the houses and we'll fight as one. Brave Godric Gryffindor favored the strong.
Chanson intitulée The Sorting Hat, chanson hommage à la série du film Harry Potter et qui fait référence au fameux chapeau magique dans le film. Et oui, le chapeau qui, souvenez-vous, était doué d'une âme qui déterminait dans laquelle des quatre maisons de Poudlard chaque nouvel élève devait être envoyé, dont Gryffondor, la maison de Harry Potter et de ses amis Ron et Hermione. Bah oui, et si vous avez aimé passionnément les livres et les films de Harry Potter, vous êtes peut-être de ceux qui se rendront au Comic-Con cette fin de semaine, à partir de demain jusqu'à dimanche au Palais des Congrès. Le Comic-Con de Montréal, on en parle justement avec Cliff Caporal. Bonjour!
Bonjour!
Dis donc, vous êtes vous-même, hein, c'est sûr qu'on ne peut pas s'impliquer dans la programmation comme ça, comme vous le faites, sans être un fan fini de cette culture populaire, de ces BD, de ces comic books, enfin de tout cet univers.
Oui, moi je consomme ça depuis que je suis très jeune, alors c'est comme si j'y étudiais la culture populaire depuis que j'ai 5 ans.
C'est ça. Alors, vous connaissez ça par cœur. Et là, bon, il y a quand même plusieurs événements du genre à travers le Canada. Il y en a au moins 3, si je ne m'abuse.
Il y en a plusieurs. Dans chaque grande ville au Canada, vous pouvez trouver une version du Comic-Con, que ce soit à Vancouver, à Toronto, à Halifax. Il y en a tout le temps une version différente. Nous, notre compagnie, on en gère 4 de ces.
C'est
de
ça,
ceux-là.
Vous faites la programmation de plusieurs quand même.
Oui,
déjà.
oui, Montréal, Québec, Ottawa et l'année passée, on a ajouté Winnipeg.
Ah, quand même. Alors, vous êtes très, très occupé à longueur d'année, forcément. Et d'ailleurs, juste à Montréal, il y en a 2 événements du genre.
Oui, alors on a le gros Comic-Con qui est au mois de juillet.
Qui commence
c'est
bientôt,
cette fin de semaine.
Ouais, ça,
et aussi, dans le temps des fêtes, on fait une autre version plus petite, mm-hmm. Avec pas d'invités, mais c'est plus comme une.
Une réunion
pour les gens, pour voir.
Pour les fans.
Pour les fans, c'est ça.
C'est ça, pour se revoir et c'est ça, fêter de nouveau. Alors, donc, 3 jours d'événements de toutes sortes. Alors, il y a des invités, des artistes, des exposants, des concours, enfin. Et le tout, c'est vraiment adapté tant aux enfants qu'aux adultes, là.
Oui, absolument. Alors, on a un petit peu pour tout le monde. C'est sûr que. Des gens de certain âge, on va dire 25 à 45, sont très attirés à les inviter de médias, c'est-à-dire de les films et les séries de télé pour acheter des autographes, prendre des photos, pour voir les conférences. Mais aussi le côté familial. Alors, les gens qui viennent avec leurs enfants, on a une zone familiale pour faire des batailles de Nerf, faire du tir à l'arche, à l'arche. Et aussi, y enseigne comment tirer une hache.
Ah bon, le tir à la hache. Ah oui, c'est populaire, ça.
C'est très
ça
populaire.
Ça existe, maintenant, à Montréal.
Les gens voient Jason Momoa faire ça dans les films, puis ils veulent faire pareil.
Ah, c'est très drôle. Ah, vous savez, on a une jeune recherchiste ici, elle s'est pointée tout de suite dans le studio, là, pour vous entendre. Et vous avez quand même accueilli, par le passé, toutes sortes de personnalités très connues. Je pense juste à William Shatner, qui était venu, il y a quand même un certain temps, là, mais pour Star Trek, entre autres.
Oui, alors William Shatner, pour nous, il est venu, je pense, c'était 3 fois ou 4 fois à date. Il aime bien Montréal, il est de Montréalais, alors il aime bien visiter quand il peut. Mais cette année, on a une grande panoplie d'invités assez intéressante. Côté Star Trek, comme vous avez mentionné Star Trek, il y a Wilson Cruz de la série Star Trek Discovery. À matin, on a ajouté une autre personne de Star Trek Discovery. Son nom, c'est Rekha Sharma, qui va venir le dimanche pour faire des autographes, prendre des photos et tout.
D'accord.
Elle était aussi dans une série qui s'appelle Battlestar Galactica, que moi, j'adore. J'étais un fan fini.
Ouais. Puis il y a des gens de toutes sortes d'univers. Je pense même à celui qui fait la voix pour Mario Bros.
Oui, it's me! Et lui, il fait la voix de Mario en anglais et en français.
Ah,
c'est Charles Martinet. Ouais.
Ah, d'accord. Alors, il y aura celui-là. On pourra effectivement le rencontrer, prendre des photos, des autographes et
exact.
Tout. Alors ça, c'est intéressant, tout ce volet-là. D'ailleurs, les gens, il y a quand même une grande partie des gens, comme vous le disiez, qui viennent aussi pour ce genre d'événement parce qu'il y a des conférences. Alors, on peut les entendre sur scène, mais aussi, c'est ça, ils peuvent se prêter à toutes sortes c'est ça, comme on disait, autographes et tout. Quels sont les autres qui seront là?
Alors, du côté de cinéma et télé, on a ajouté hier, on a ajouté beaucoup dans les dernières journées, on a ajouté hier 2 personnages de Stranger Things. Alors, c'est une personne que tout le monde haït, c'est Jason, le joueur de basket qui chasse les nouéros. C'est Grace Van Deen qui joue la fille, la première victime dans la série.
D'accord. Ben oui, parce que ça fait l'horreur fait partie aussi, enfin la science-fiction, l'horreur, ça fait tout partie des intérêts, bien sûr. Alors là, il y a des exposants. Écoutez, on parle quand même de tout un espace, 200 000 pieds carrés de magasinage possible.
Oui, alors c'est vraiment énorme. On prend tout le palais des congrès, la salle d'exposants au complet. Il y a au-dessus de 500 kiosques à l'intérieur. Alors, il y a des kiosques avec des artisans, parce qu'il y a le côté artiste, bande dessinée, comic book, qui viennent. Il y a des invités. On a 30 invités du côté BD et comic book.
BD, je pense à aussi Michel Rabagliati, qui est très connu ici au Québec.
Oui, il va faire des dédicaces. On a un partenariat avec le Festival BD de Montréal et il vient à leur kiosque pour faire des dédicaces. le dimanche, je crois.
C'est ça. Donc, conférence également. Et puis, le clou aussi, samedi, c'est la fameuse mascarade.
Oui, absolument.
Ça, c'est une tradition.
C'est une tradition. À chaque année, il y a le concours de costumes qu'on appelle la mascarade. C'est un concours de costumes amateurs. Alors, c'est pas des professionnels qui viennent, mais ça semble très professionnel. Oui. C'est des gens que dans le futur, tu le sais, qui vont trouver des jobs dans ce milieu-là. Ils passent beaucoup de temps à créer des costumes et ça crée toute une subculture qui est née, dans le fond, à l'intérieur des événements comme le nôtre. Alors, l'idée de se déguiser, avant, c'était juste l'Halloween. Mais avec les Comic-Con, les événements culture populaire, les gens se disent, bon, ben, je peux me
perdre.
Pourquoi pas, je peux me perdre dans mon personnage.
C'est puis, ça, parce qu'il y en a qui font juste visiter, qui ne participent pas nécessairement à la mascarade, mais d'autres vont participer à la mascarade. D'ailleurs, il y a toute une série de conditions, il faut s'inscrire et tout, là, parce que c'est un concours en même temps.
Ouais. Exactement, c'est un concours. Les gens sont déjà pré-inscrits la plupart, mais il y a une couple de places qui restent pour le samedi matin. Ils peuvent s'inscrire entre 9h et 11h le matin. Très peu de places. Ensuite, en soirée, ces gens-là montent sur scène pour montrer leur costume et se font juger par nos juges en arrière pour garder la couture, voir la construction du costume et tout. Et ensuite, on remet des prix à les gagnants. Ces prix-là, ils peuvent être reconnus dans d'autres festivals comme le nôtre qui reconnaissent le prix et ils peuvent rentrer dans la prochaine catégorie, on va dire, au Japon.
C'est ça. Combien il peut y avoir de participants pour la mascarade?
La mascarade, c'est entre 40 et 60 participants qui montent sur scène. Et on a une foule de 2000 personnes qui les attend.
Ouais, bon, et quand même, c'est quelque chose. Alors, pas mal d'actions. Et vous-même, bon, vous avez, non seulement vous faites la programmation, et on sait que vous êtes un passionné, vous l'avez dit, mais comment en êtes-vous venu à faire cette programmation-là? Et puis, bon, d'abord, vous faisiez aussi des balados à la radio, je pense. Ça, c'est des activités un peu parallèles.
Oui, c'est à cause que ce qu'on avait fait, c'était... pendant la période d'être un petit peu tranquille des 3 ans sans Comic-Con, on a aussi décidé de faire des ventes aux enchères pour le Comic-Con à tous les mois. On a fait un gros événement virtuel. C'était le juillet passé avec des invités virtuels. Mm-hmm. C'était tout virtuel, c'était 12 heures sans arrêt.
Ouais.
Beaucoup de travail, mais c'était amusant et c'était pour que les gens nous reconnaissent qu'on est encore là.
C'est ça. Donc, ça valait la peine, effectivement, de le faire en virtuel de toute façon. Alors, c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs, durant les dernières années.
Oui, c'est presque juste ça. Ils me voyaient nos faces.
C'est ça.
À travers leur
écran. Mais vous avez eu quand même, votre public vous a suivi là-dedans.
Oui, absolument. Ils savent qu'on était encore en vie, puis ils attendaient qu'on revienne en force comme cette fin de semaine. Je pense que ça va dépasser sûrement les billets de 2019.
Ouais.
C'est difficile à croire, mais...
Combien vous attendez?
En 2019, il y avait 62 000 personnes. Alors, estime que ça soit ou pareil ou que ça dépasse. Là, c'est sûr que les habitudes ont changé. Alors, c'est possible que les gens sont juste habitués à acheter en ligne pendant les 3 dernières années. C'est juste ça qu'on a fait. Alors, peut-être qu'il y a moins de personnes sur place qui attendent d'acheter les billets, mais je pense que ça va bien aller.
Ça va bien aller, certain. Mais enfin, donc, c'est tout un univers vraiment qui s'ouvre à nous pour ceux qui aimeraient découvrir cet événement, le Comic-Con, qui aura lieu donc cette fin de semaine. Alors, ça commence à quelle heure demain?
Ça commence pour les billets réguliers, c'est à 13h de l'après-midi qu'on ouvre les portes. La salle d'exposants est ouverte jusqu'à 20h, mais il y a des événements qui continuent dans la programmation au cinquième étage avec le concert de... Ghibli, qu'on a là ce soir, vendredi soir. Et aussi, c'est un orchestre qui va jouer la musique des films de Ghibli comme Spirited Away et autres que j'oublie les titres présentement.
C'est ça, puis enfin.
Et il y a aussi un speed dating. Il va avoir un film présenté. Alors, il y a bien des choses dans la soirée.
Oui, je comprends. Il y a de quoi s'occuper. Enfin, j'avais l'impression que c'était très niché, mais au fond, non. Si on regarde le nombre de personnes qui visitent cet événement, alors, quand on parle de 60 000 personnes en 2019, on en attend peut-être davantage cette année.
Oui.
Alors, je vous souhaite bonne chance et puis bon Comic-Con. Et puis, pour les autres aussi, ailleurs, ceux dont vous vous occupez, bien sûr. Alors, merci bien. Puis, il y aura l'autre événement, plus petit, mais en décembre prochain.
Exact. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Cliff Caporal. Au revoir.
Au revoir.
C'était Malajube et Ursuline de l'album Labyrinthe, le troisième album du groupe de rock indépendant québécois sorti en 2009. Et c'est avec bonheur que nous allons parler du monastère des Ursulines et de son pôle culturel. Enfin, nous serons dans un tout autre univers. Le musée du pôle culturel du monastère des Ursulines est un musée d'histoire mettant en valeur le legs culturel des Ursulines de Québec, situé sur la rue Donnacona, sur le site de l'ancienne maison de Marie-Madeleine de Chauvigny de la Pelletrie. Et pour en parler, on joint Johan Bonnette, médiateur culturel au pôle culturel du monastère des Ursulines. Bonjour.
Bonjour, vous allez bien?
Ah, très bien. Et puis bon, il fait beau, alors c'est merveilleux. Monsieur Bonnette, oui, le musée du pôle culturel du monastère des Ursulines, qui était autrefois connu sous le nom de Musée des Ursulines de Québec, tout simplement.
Oui, exactement, tout à fait. Donc, il y a eu un petit changement par rapport à l'institution, justement, en 2018. Mm-hmm. C'était vraiment aussi un changement de cap également. Puis ça a vraiment, le pôle culturel, en fait, c'est plus qu'un musée. C'est aussi avec une mission de conservation des archives et des collections des Ursulines. Donc, c'est aussi derrière le changement d'appellation.
Donc, c'est beaucoup plus global, au fond, c'est ce que je comprends.
Oui, c'est ça. Je dirais le musée, c'est peut-être la partie qui est la plus visible pour ce qui est du grand mm-hmm. public, les gens qui viennent nous visiter. Mais il y a tout un travail, justement, en coulisses pour, justement, s'assurer le maintien de ces collections-là qui sont vraiment inestimables au niveau patrimonial.
Tout à fait. Alors, c'est vraiment un lieu où chacun peut enrichir ses connaissances à travers, effectivement, les expositions, les visites, participer à de nombreuses activités autour de cet héritage unique des Ursulines. Il y a tout un volet culturel, une programmation culturelle, aussi à l'occasion du 350e anniversaire du décès de Marie de l'Incarnation. Alors ça se déroule tout au long de l'année. Hein. C'est un anniversaire qu'on célèbre jusqu'en 2023.
Oui, c'est ça, exactement. On a vraiment développé une année thématique là, du 30 avril 2022 au 30 avril 2023. Il y a vraiment plusieurs choses pour aller chercher des publics très différents. On a une nouvelle exposition, on a fait des concerts, des conférences, puis l'idée, c'est vraiment donc d'offrir des choses là, pendant une année complète là, pour nos visiteurs.
C'est ça, parce que vraiment, pour faire connaître ce personnage féminin marquant de notre histoire, et puis rappelons, bon, Marie de l'Incarnation, c'est pas tout le monde, là, évidemment, les plus jeunes, peut-être, le savent moins, mais enfin, bon, d'abord, c'était une missionnaire catholique française, fondatrice des Ursulines de la Nouvelle-France, et puis elle a aussi fondé, je pense, le premier couvent d'enseignement féminin en Amérique.
Oui, c'est ça. En fait, on parle vraiment là, de la première école pour filles au nord du Mexique. Les Ursulines enseignent à Québec depuis 1639. Donc, on parle de plus de 380 ans d'éducation. Ouais. Puis, ce qui est hallucinant avec Marie de l'Incarnation, c'est quand on regarde non seulement comment elle enseignait, mais tout ce qu'elle allait accomplir en plus de ça. Marie de l'Incarnation, c'était aussi une femme d'affaires redoutable. C'est quelqu'un qui a participé, par exemple, à la conception du premier monastère des Ursulines. Elle a aidé à dessiner les plans, elle a aidé à recruter les personnes nécessaires pour le construire. Donc, c'est vraiment un personnage qui est très multidisciplinaire, puis c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre de l'avant avec cette programmation-là aussi.
Ouais, c'est ça, parce que bon, je parlais que le site du monastère, en fait, c'est situé là, en fait, dans l'ancienne maison de Marie-Madeleine de Chauvigny de la Pelletrie, qui est en fait une femme qu'elle avait rencontrée, bon, et qui était riche, qui était pieuse. Alors, cette rencontre-là a été déterminante parce que c'est par elle qu'elle va obtenir Marie de l'Incarnation les fonds nécessaires pour la fondation de son monastère à Québec.
Absolument. Puis Madame de la Pelletrie est un personnage vraiment incontournable. En fait, c'est vraiment elle qui va soutenir Marie de l'Incarnation. En fait, elles avaient un objectif qui se rapprochait vraiment, qui était assez commun. Donc, c'est vraiment une rencontre qui était très très profitable pour ces deux femmes. Ce qui est intéressant aussi à relever avec Madame de la Pelletrie, c'est que il y a beaucoup de gens qui allaient prendre ce rôle-là de mécène, mm-hmm. mais c'est pas tout le monde qui allait traverser l'océan.
Ouais, parce qu'elle l'a fait avec Marie de l'Incarnation. Ouais.
C'est ça, donc c'est vraiment intéressant aussi comme angle pour montrer vraiment la passion derrière ce projet-là de Madame de la Pelletrie.
C'est ça, deux femmes volontaires. Alors, Marie de l'Incarnation, qui évidemment devait convertir au catholicisme les filles qui lui étaient confiées. Alors, d'abord les Montagnaises, les Abénakis, puis les Hurones et les Iroquoises. Enfin, on va passer au musée comme tel et à tout ce qu'on doit savoir, là, tout ce qu'on peut faire autour de ce pôle culturel des Ursulines.
Oui, bien sûr. Donc, on a vraiment, pour ce qui est du musée, on a présentement 5 expositions à l'affiche, vraiment très variées. Il y en a sur l'éducation, il y en a qui présentent plus en détail les broderies des Ursulines comme artistes. C'est vraiment hallucinant. On a des œuvres qui sont exposées, qui remontent aux années 1600, aux années 1700. D'ailleurs, notre nouveauté estivale est en lien avec ce patrimoine textile. En fait, on a fait une collaboration avec la Maison des métiers d'art de Québec. Et en fait, c'est un projet qui s'appelle Filiation. Donc, il y a 6 artistes textiles du et de Québec qui ont créé des œuvres contemporaines inspirées des collections textiles des Ursulines. Donc, c'est vraiment un dialogue entre le présent et le passé. Et ce qui est intéressant, c'est que ces œuvres-là sont exposées partout dans les salles du musée. C'est ce qu'on appelle une exposition éclatée, finalement.
Ouais, ouais,
ouais. Et les œuvres où elles sont exposées, c'est en lien avec les thématiques des salles d'exposition. C'est vraiment très, très, très complémentaire. C'est vraiment un excellent projet. Les artistes ont fait des œuvres hallucinantes. Et cette exposition-là est à l'affiche en nos murs jusqu'au 1er décembre.
Bon, parfait. Il y a tout un volet familial également, hein, pour tout le monde, quoi.
Absolument. On a une exposition qui s'intitule « C'est en jouant que l'on devient grand ». C'est une exposition ludique, donc qui se joue. C'est vraiment génial pour les familles au niveau des artefacts. Tout ça, c'est vraiment adapté. Par exemple, il y a des endroits où il faut ramper si on veut voir les objets. Donc, c'est vraiment amené pour les familles. ce tournant familial-là se reflète également dans nos salles d'exposition. En fait, nous, ce qu'on aime dire, c'est qu'on a des activités pour les familles dans toutes les salles de notre musée, que ce soit des rallyes, que ce soit des chercher-trop, même que d'ailleurs, au mois d'août, on va avoir un parcours archéologique où c'est vraiment un jeu d'observation avec les familles qui les amènent dans les jardins des Ursulines, dans la cour intérieure. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant.
Ah bon. Alors évidemment, c'est ce monastère qui est vraiment bien imbriqué finalement dans le quartier.
Oui, absolument, absolument. Je dirais même au point tel que c'est le sujet de notre visite extérieure. En fait, on a un parcours qui s'intitule « Les Ursulines et leur quartier » et on met en lumière ces liens-là qu'a la communauté avec les rues, les intervenants, les maisons, les bâtiments qui les entourent. C'est vraiment intéressant d'aborder l'histoire des Ursulines sous un angle peut-être plus extérieur auquel on est habitué. C'est vraiment une belle manière de découvrir le quartier également.
C'est ça. Puis il y a la chapelle hein, qui est à découvrir aussi. Hein. On peut compléter notre visite aussi de ce côté.
Absolument. La chapelle, en plus, c'est gratuit. Donc, s'il y a des gens qui passent par le Vieux-Québec qui n'ont pas le temps de faire tout le musée, nous, on le recommande fortement. C'est vraiment vu comme un trésor.
Ah oui, un joyau d'histoire.
Au niveau du patrimoine, c'est hallucinant. On a un des décors religieux au niveau des retables, au niveau de la chaire, qui sont les mieux conservés datant de la Nouvelle-France. Il y a le tombeau de Marie de l'Incarnation, justement.
Mm-hmm.
On a également beaucoup de tableaux qui sont attribués à la collection des Fonds des Jardins. Donc, c'est des tableaux qui ont été rescapés de la Révolution française qui datent du 17e et du 18e. Donc, on est vraiment dans un lieu extraordinaire là au niveau patrimonial.
Mm-hmm. Il y a aussi différentes facettes du legs des Ursulines qui sont dévoilées par des expériences virtuelles. Alors ça, c'est important pour ceux qui voudraient aller juste explorer sur votre site.
Oui, absolument. Je vous dirais, au niveau de l'expérience virtuelle, ce qui est intéressant, c'est qu'on a lancé un balado âme-sœur qui présente les liens entre les Ursulines et une autre communauté bien connue de Québec, une communauté fondatrice, les Augustines. Au niveau virtuel, c'est extrêmement intéressant. Il y a un volet audio, mais il y a également un volet vidéo. Donc, ça permet aussi de découvrir des lieux qui ne sont pas accessibles au public avec des intervenants qui vous racontent cette belle histoire-là sur place. Donc, ça, au niveau virtuel, c'est vraiment extraordinaire. Ça a été lancé il y a quelques semaines. Puis c'est vraiment un très beau document, là.
C'est ça. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, enfin, c'est extraordinaire. Donc, c'est riche en histoire et tout. Alors, volet éducatif, bien sûr, volet familial. On peut jouer aussi, en fait, pour les familles, là. On peut devenir archéologue en herbe également pour les jeunes.
Exactement. Enfin. Sinon, une activité que je me sentirais mal d'oublier de vous parler en cette belle occasion. On a un projet très spécial qui s'appelle Écho du cœur, qui est une expérience audio immersive dans la chapelle des Ursulines. Moi, ce qui vient beaucoup me chercher avec ce projet-là, c'est que c'est les Ursulines qui se confient. C'est les religieuses qui vont vous raconter leur chapelle en leurs propres mots.
C'est intéressant,
c'est
ça.
Très touchant, très émouvant, puis c'est vraiment une manière extraordinaire de découvrir la chapelle. C'est de manière audio immersive. Donc, vous avez un casque d'écoute, puis le son va changer selon... C'est vraiment comme si quelqu'un vous parlait. C'est vraiment très, très spécial.
Ah bon, écoutez, rapidement, le musée, bon, il existe quand même depuis 1936, et puis, collection très riche, il y avait le célèbre crâne de Montcalm, existe-t-il encore? Simple curiosité, vite, vite.
Oui, le crâne de Montcalm existe encore, mais en fait, Montcalm a été enterré pendant longtemps à la chapelle des Ursulines.
Ah, oui.
C'est ça qu'on avait le crâne, là, pour mettre dans le contexte. Sauf que Montcalm n'est plus enterré là. En fait, il a été déplacé en 2001, donc assez récemment, du côté du cimetière de l'Hôpital général de Québec pour qu'il soit enterré avec ses soldats. Et à cette occasion-là, on a réenterré le crâne avec le reste de sa personne.
Parfait, Johan Bonnette, médiateur culturel au pôle culturel du monastère des Ursulines. Merci et puis bon été.
Merci à vous. Bon été à vous.
Au revoir. Et bon été à tout le monde. Nous, on sera là quand même demain à la même heure, entre midi et 13h. Soyez là. Au revoir.